Chapitre 21. Martin Silenus avait travaillé tout l'après-midi à son poème épique, et seul le manque de lumière l'avait forcé à interrompre son effort de création. Il avait trouvé son ancienne chambre de travail pillée, le bureau antique disparu. Le palais du roi Billy le Triste avait beaucoup souffert des insultes du temps. Tous ses carreaux étaient brisés, des dunes en miniature s'étaient formées sur les tapis décolorés qui valaient autrefois des fortunes. Des rats et des anguilles de roche avaient élu domicile sous les pierres. Les tours abritaient des colombes et des faucons de chasse retournés à l'état sauvage. Finalement, le poète s'était installé pour travailler devant une table basse de la grande salle du palais, sous le dôme géodésique de la salle à manger. La poussière et les détritus jonchaient le sol au carrelage de céramique. Les plantes grimpantes au ton lilas ou écarlate obscurcissaient les fenêtres du haut aux carreaux cassés, mais Silenus ne prêtait pas attention à ces menus détails et continuait d'écrire ses cantos. Le poème traitait de mort et de l'exil des titans par leur progéniture, les dieux helléniques. Il parlait de la lutte olympienne qui avait suivi leur refus de partir, et du bouillonnement des mers lors de la lutte entre Océanos et Neptune, son usurpateur. Il parlait de l'extinction des soleils lorsqu'Hyperion s'était battu avec Apollon pour la maîtrise de la lumière, et des spasmes qui avaient secoué l'univers lui-même lorsque Saturne et Jupiter s'étaient disputés le trône des dieux. L'enjeu n'était pas simplement le passage d'un groupe de divinités à un autre, c'était aussi la fin d'un âge d'or et le début de temps sombres qui allaient marquer le destin de toutes les créatures mortelles. Les chants d'Hyperion ne faisaient pas mystère des identités multiples de ces dieux. On comprenait aisément que les titans étaient les héros de la courte histoire galactique de l'humanité actuelle et que leur usurpateur olympien était les IA du technocentre. Le champ de bataille englobait les continents familiers, les océans et les voies de communication aérienne de tous les mondes du Retz. Au milieu de tout cela, le monstre Dis, fils de Saturne, mais qui briguait l'héritage du royaume avec Jupiter, traquait ses proies, moissonnant indifféremment les dieux et les mortels. Les cantos évoquaient également les relations entre créatures et créateurs, l'amour entre parents et enfants, entre les artistes et leur art, les créateurs en général et leur création. Le poème glorifiait l'amour et la loyauté, mais titubait également au bord du nihilisme, avec son fil constant de corruption à travers l'amour du pouvoir, l'ambition humaine et l'hubris. Martin Silenus travaillait sur ses cantos depuis plus de 2 siècles standards. Le meilleur de son œuvre s'était écrit dans ce même environnement, dans cette cité abandonnée, avec, pour fond sonore, le gémissement des vents du désert, comme un chœur grec sinistre à l'arrière-plan, et la menace toujours présente de l'irruption du Gritch. En sauvant sa propre vie, en choisissant la fuite, Silenus avait abandonné sa muse et condamné sa plume au silence. En reprenant le travail, en suivant la voie toute tracée, le circuit de perfection que seul le créateur inspiré peut connaître, Martin Silenus se sentait revivre. Ses vaisseaux sanguins s'élargissaient, ses poumons se remplissaient, l'air pur et la lumière affluaient en lui sans qu'il en eût conscience. Il jouissait de chaque trait de sa plume ancienne sur le parchemin, de la pile de feuillets sur la grande table circulaire, des morceaux de maçonnerie qui lui servaient de presse-papier, de l'intrigue qui recommençait à couler librement, de l'immortalité présente à chaque paragraphe et à chaque ligne. Silenus en était arrivé à la partie la plus difficile et la plus excitante du poème, celle où le conflit fait rage dans un millier de décors différents et où des civilisations entières ont été dévastées, où les représentants des titans appellent à une trêve afin de rencontrer les héros sans humour de l'Olympe et de négocier avec eux. Sur ces vastes territoires de son imagination chevauchaient Saturne, Hyperion, Cotus, Japet, Océanos, Briareus, Mimus, Porphyrion, Encélade, Rethée et d'autres encore, avec leurs sœurs non moins titanesques, Thétis, Phébé, Théia et Climène. Face à eux, les figures sinistres de Jupiter, Apollon et leurs pareils. Silénus ignorait tout du dénouement de son très épique poème. Il ne vivait plus que pour le finir. Depuis des décennies, c'était la seule chose qui le rattachait à la vie. Envoler les rêves de richesse et de célébrité de son enfance, où il voulait se mettre au service du Verbe. Il avait été comblé au-delà de toutes ses espérances par la célébrité et la richesse, mais cela avait failli le tuer, et cela avait tué, en tout cas, son art. Bien qu'il eût l'intime conviction que les Cantos étaient la plus grande œuvre littéraire de son époque, il ne voulait qu'en finir avec eux, en connaître lui-même le dénouement et écrire chaque strophe, chaque vers et chaque mot sous la forme la plus claire, la plus élégante et la plus belle possible. Il écrivait fiévreusement, rendu presque fou par le désir d'achever ce qu'il avait longtemps jugé impossible à finir. Les mots et les phrases volaient de sa plume antique au papier ancien. Les strophes s'alignaient sans effort. Les chants trouvaient leur voie et s'achevaient d'eux-mêmes sans avoir besoin d'être revus, sans pause pour trouver l'inspiration. Le poème avançait à une vitesse stupéfiante. Les révélations étonnantes communiquaient leur beauté fracassante, aussi bien au verbe qu'à l'image. Sous leur drapeau de trêve, Saturne et son usurpateur, Jupiter, se faisaient face de part et d'autre d'un traité gravé dans le marbre pur. Leur dialogue était à la fois épique et simple, leur raison d'être et leur rationalisation de la guerre formant le débat le plus élevé qui eût jamais existé depuis le dialogue de Mélos de Thucydide. Mais, soudain, quelque chose de nouveau, de totalement imprévu par Martin Silénus au cours de ses longues heures de musardise sans sa muse, s'introduisit dans le poème. Les deux rois des dieux exprimèrent leur peur d'un troisième usurpateur. Une terrible force extérieure venue menacer la stabilité de l'un et de l'autre, de leurs deux règnes. Silénus assista, stupéfait, à la scène où les deux personnages, qu'il avait créés au prix d'un long labeur, représentant des milliers d'heures d'efforts, défiaient sa volonté et se serraient la main au-dessus de la plaque de marbre. Pour sceller leur alliance contre... Contre quoi ? Le poète s'interrompit, la plume levée, en s'apercevant qu'il parvenait à peine à relire sa page. Il écrivait depuis un bon moment dans la pénombre, et maintenant l'obscurité était presque totale. Il reprit ses esprits dans le sens où il laissa de nouveau le monde envahir sa conscience intérieure, un peu comme dans le retour aux sensations diverses qui suit l'orgasme. Seule la redescente de l'écrivain dans le monde réel est plus pénible lorsqu'il traîne derrière lui des nuages de gloire qui se dissipent rapidement dans le flot mondain des banalités sensorielles. Il regarda autour de lui. La grande salle à manger était plongée dans une obscurité totale, à l'exception de la lueur vacillante des étoiles et des lointaines explosions de lumière qui filtraient à travers les carreaux cassés et la vigne vierge. Les tables autour de lui n'étaient guère que des ombres. Les murs, sur 30 mètres de part et d'autre de l'endroit où il se trouvait, étaient étouffés par les plantes variqueuses du désert. À l'extérieur de la salle à manger, le vent du soir faisait entendre ses voix multiples de contralto et de soprano dans les fissures des poutres et les crevasses de la coupole au-dessus de lui. Le poète soupira. Il n'avait pas de lampe dans son paquetage. Il n'avait rien apporté d'autre qu'une gourde et ses cantos. Il sentit son estomac se contracter de faim. Où était donc passée cette fichue Brown Lamia? Mais il n'avait pas plus tôt eu cette pensée qu'il se sentait reconnaissant à cette femme de n'être pas revenue le chercher. Il avait besoin de solitude pour achever son poème. Et à cette vitesse, il ne lui faudrait pas plus d'un jour. Cette nuit peut-être. Encore quelques heures et il en aurait fini avec l'œuvre de sa vie. Il serait prêt à prendre un peu de repos bien mérité, à s'intéresser aux petits détails de la vie, aux menus faits quotidiens qui, depuis maintenant des décennies, n'avaient été perçus par lui que comme l'interruption d'une œuvre qu'il était incapable d'achever. Il soupira une nouvelle fois, puis il commença à ranger les pages du manuscrit dans son sac. Il trouverait bien de la lumière quelque part. Il allumerait un feu, même s'il lui fallait pour cela se servir des tapisseries antiques du roi Billy. Il était prêt à écrire dehors s'il le fallait, à la lueur de la bataille spatiale. Les derniers feuillets et le porte-plume à la main, il se tourna vers la porte. Il y avait une présence dans l'obscurité. La mia, se dit-il, déchirée entre le soulagement et la déception. Mais ce n'était pas Brown Lamia. Il distingua les contours hérissés de la silhouette, la masse portée par les deux jambes démesurées, les reflets de la lumière stellaire sur la carapace et les épines, l'ombre des bras sous les bras et, particulièrement, l'éclat rubis du cristal d'enfer à l'endroit où la créature aurait dû avoir des yeux. Il retomba assis dans son fauteuil et laissa échapper un gémissement.
« Pas maintenant !» s'écria-t-il. « Va-t'en avec tes putains d'yeux !»
L'ombre se rapprocha en glissant silencieusement sur le carrelage. Le ciel miroitait d'une énergie rouge sang. Le poète distinguait maintenant avec netteté les épines et les lames acérées.
« Non !» cria Martin Silenus. « Je refuse ! Laisse-moi !»
Le Gritch s'avança encore. La main de Silenus se contracta, se referma sur le porte-plume et écrivit en travers du bas de la dernière page inachevée « Le moment est venu, Martin. » Silenus regarda horrifié ce qu'il avait écrit, réprimant l'envie qu'il avait d'éclater d'un rire hystérique. À sa connaissance, le Gritch n'avait jamais parlé, jamais communiqué avec personne. Sa seule manière de traiter les gens était de leur infliger la mort et la souffrance.
« Non !»
s'écria-t-il de nouveau.
« J'ai mon œuvre à achever. Prends quelqu'un d'autre, maudit !»
Le Gritch fit un nouveau pas en avant. Le ciel pulsait d'explosions silencieuses au plasma, tandis que des reflets jaunes et rouges parcouraient le torse de vif argent et les bras de la créature comme des jets de peinture sous pression. La main de Silenus se crispa de nouveau sur le porte-plume et écrivit au-dessous du premier message. « Le moment est arrivé, maintenant, Martin. » Le poète serra le manuscrit contre lui, ramassant les pages qui étaient restées sur la table pour s'empêcher d'écrire encore dessus. Montrant ses dents dans un horrible rictus, il siffla presque comme un serpent face à l'apparition. « Tu étais prêt à changer de place avec ton patron. » écrivit encore la main à même la table cette fois-ci.
« Pas maintenant !»
hurla le poète.
« Le roi Billy est mort ! Laisse-moi finir mon poème !»
Lui, qui n'avait jamais quémandé de toute sa longue existence, il suppliait maintenant cette créature.
« Par pitié ! Laisse-moi finir ce que j'ai commencé !»
Le Gritch fit encore un pas. Il était si près maintenant que la partie supérieure de son corps, toute déformée, arrêtait la lumière et laissait le poète dans l'ombre. « Non !» écrivit sa main avant de laisser échapper la plume au moment où les griffes acérées du Gritch, au bout d'un bras démesuré, l'agrippaient pour lui transpercer le bras jusqu'à l'os. Martin Silenus hurla tandis que la créature l'entraînait. Il hurla lorsqu'il sentit le sable couler sous ses pieds et qu'il aperçut l'arbre qui se profilait en plein milieu de la vallée. C'était un arbre gigantesque, plus large que la vallée elle-même, plus haut que les montagnes que les pèlerins avaient traversées. Ses hautes branches semblaient se tendre vers l'espace. C'était un arbre de chrome et d'acier, aux branches hérissées de piquants et de ronces. Des êtres humains se tordaient et se débattaient sur ses branches. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Sous l'éclat rougeâtre du ciel agonisant, Silenus se concentra pour dominer la douleur et crut reconnaître un certain nombre de ces humains. C'étaient de vrais corps et non des âmes ou autres abstractions. Visiblement, ils souffraient comme des créatures vivantes. « C'est nécessaire !» écrivit la main de Silenus sur le froid implacable de la carapace du Gritch. Le sang coula sur le vif argent, puis sur le sable.
« Non !»
hurla le poète. Il tambourina des poings contre les piques et les lames acérées comme des scalpels. Il se débattit pour échapper à la créature qui l'attirait contre lui, contre les épines hérissées de sa carapace, comme s'il était un papillon qu'elle voulait épingler. Mais ce ne fut pas l'atroce douleur qui rendit fou Martin Silenus. Ce fut l'idée de son irréparable perte. Il avait presque fini son poème. Il était sur le point de l'achever.
« Non !»
répéta-t-il en se débattant violemment, jusqu'à ce que tout l'air environnant soit rempli d'un nuage de sang pulvérisé et des injures qu'il proférait. Mais le Gritch l'entraînait implacablement vers l'arbre qui l'attendait. Dans la cité morte, les cris se répercutèrent encore une minute ou deux, s'amenuisant avec la distance. Puis le silence s'établit, rompu de temps à autre par le froissement d'ailes des colombes qui regagnaient leur nid à travers les carreaux cassés du dôme. Le vent se leva, secouant les panneaux de perspex brisés ou la maçonnerie branlante, balayant les feuilles mortes ratatinées au fond des fontaines sèches, s'insinuant dans la grande salle du palais et dispersant les pages des cantos en un tourbillon fantasmagorique. Certaines pages furent emportées dans les cours intérieures silencieuses, d'autres dans les allées, d'autres encore au creux des aqueducs en ruine. Au bout d'un moment, le vent mourut, et plus rien ne bougea dans la cité des poètes.